Il est 10h passé de 32 minutes sur Polynésie Première. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Family Psy. Comme tous les lundis matin, nous recevons notre psychologue de la famille. C'est bien sûr Nathalie Collin-Fagotin. Bonjour Nathalie.
Mathieu.
Et puis je rappelle que vous pouvez participer à cette émission par téléphone au 40 86 16 00 ou à, bien sûr le buzz SMS de Polynésie Première, le 7123 71 23. Je le répète, 7123 71 23 pour toutes vos questions. Votre émission Family Psy avec Nathalie Collin-Fagotin. Comment savoir qu'un adolescent va mal? Beaucoup de parents se demandent à partir de quand ils doivent s'inquiéter. Si certains comportements ne trompent pas, d'autres sont liés directement aux transformations physiques et psychologiques de la période de l'adolescence. Alors, comment faire la différence? Et à partir de quel indice peut-on savoir qu'un adolescent va mal, Nathalie?
Oui, pour commencer, il est important de savoir ce que c'est que l'adolescence pour justement voir les changements, les caractéristiques de cette période de la vie. Donc il faut savoir que la période d'adolescence est une période de transition entre la période de l'enfance et celle de l'âge adulte. Donc l'adolescent n'est plus tout à fait un enfant, mais il n'est pas encore tout à fait adulte. C'est aussi pour l'adolescent une période de transformation physique, physiologique et mentale ou psychologique. La croissance physique, le développement des organes, le corps change, il mûrit, c'est aussi la période de la maturation sexuelle, une production hormonale aussi à cette période-là très intense, hein, qui est à l'origine d'ailleurs de toutes les transformations et métamorphoses physiques. C'est aussi la période du développement identitaire, de la personnalité, et des changements dans la configuration sociale de l'adolescent, sur sa vie amicale et familiale. Beaucoup donc de mutations surviennent pendant cette période de la vie, créant chez l'adolescent des sources de préoccupations diverses. Donc l'adolescence, c'est à la fois une continuité avec la période de l'enfance et une préparation à la vie adulte. C'est ce qui en fait une période à la fois sensible et riche en enjeux pour l'avenir. Cette intense période de mutation va donc se traduire pour l'adolescent en comportement et en attitude qui peuvent parfois surprendre l'entourage. L'entourage va donc assister à ce changement de comportement, d'attitude, mais aussi d'attente, de préoccupation qui découle tout simplement, très naturellement, des transformations internes et physiques décrites juste avant.
Alors, justement, face à ça, qu'est-ce qui va changer dans le comportement des adolescents ?
Donc, dans le comportement des adolescents, la première chose qui va se voir, qui va changer, c'est le corps. Le corps change et suscite de la curiosité chez l'adolescent, au mieux, et des inquiétudes ou du dégoût, au pire. L'adolescent, pour se rassurer, va donc passer beaucoup de temps à s'observer. Il peut ainsi rester des heures dans sa chambre, dans la salle de bain, devant un miroir, pour s'observer et s'occuper de son corps. Il va aussi, dans le même sens, soigner sa tenue vestimentaire, sa coiffure, son look, être inquiet quand vont survenir sur la peau des signes de changement. Bref, son apparence est importante et il s'en occupe. C'est là la face visible de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, le corps change, ça c'est le premier élément qui provoque des changements de comportement chez l'adolescent. Deuxième chose, il ressent le besoin aussi de tester sa cote de popularité auprès de ses camarades. Il cherche à voir s'il compte pour quelqu'un, s'il est aimé, s'il est accepté. Il a un groupe de copains et c'est important pour lui de se sentir accepté et appartenir à ce groupe d'amis. Il va donc déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour se faire accepter dans ce groupe, pour s'y conformer également et forcer l'admiration de ses pairs. Cela va se passer pendant le temps scolaire où il va évidemment côtoyer ses amis, mais aussi en dehors de l'école. Et ça passe notamment par des échanges via les réseaux sociaux, par exemple, mais pas seulement. Troisième chose qui change pour le comportement de l'adolescent, l'adolescent ressent le besoin de se débrouiller tout seul. Il veut prouver qu'il a grandi, qu'il est capable de prendre ses propres décisions. D'ailleurs, ses préférences s'affinent. Il sait mieux ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il se sent de plus en plus rassuré et il peut l'exprimer ouvertement devant ses parents, ses profs, ses copains, même si plusieurs années seront nécessaires pour qu'il apprenne à le faire de la bonne manière et à bon escient. Il va donc chercher à faire ses propres choix, les assumer et abandonner les modèles parentaux qui lui déplaisent, hein, ce que faisait par contre l'enfant. Il va donc donner son avis, mettre en cause une règle établie dans la famille, exprimer son désaccord ou franchement s'y opposer. En bref, il fait du tri. Il s'approprie progressivement ce qui lui convient, il délaisse le reste, y compris parfois ce qu'il considérait normal et bon quelques années plus tôt, pendant la période de l'enfance. Dernière chose, vers 16 ou 17 ans, l'adolescent se questionne de plus en plus sur sa vie, ses origines, son avenir et le sens que tout cela a pour lui. Il cherche des réponses. Il va avoir une quête de sens dans sa vie. Il n'a pas forcément une idée très claire de ce qu'il veut faire en termes d'avenir. Les parents le savent bien. Peu d'adolescents de 16-17 ans savent déjà quelles études et encore moins quelles professions ils souhaitent exercer plus tard. Mais il sait de mieux en mieux ce qu'il ne veut pas. Il a une idée approximative de ce qui lui plaît. Et il fait des choix de plus en plus en fonction de ses propres valeurs. Ce qu'on lui demande de faire va maintenant passer par la moulinette du sens et du sentiment de justice qu'il va développer. S'il trouve que quelque chose est injuste ou n'a pas de sens, il va l'exprimer ou refuser de le faire, au risque même de s'attirer des ennuis, si c'est important pour lui.
Alors, 15 indices indiquent que l'ado va mal, Nathalie.
Alors oui, il y a des indices qu'on va, dans notre jargon professionnel, appeler des signes, parce qu'ils font véritablement signes à décoder pour comprendre ce qui se passe derrière. Les signes qui généralement alertent l'entourage sont des signaux qu'on pourrait qualifier de bruyants. Par exemple, l'agressivité d'un adolescent, des comportements risqués, les fugues, addictions. Quand on commence à avoir un adolescent fumer ou être tenté de fumer ou de prendre des drogues, ou le décrochage de l'école, ou la baisse des résultats scolaires, ou pire encore, ce qu'on appelle les automutilations, comme les scarifications, le fait de s'agresser, agresser son propre corps. Ces signes ont raison d'alerter l'entourage, tant ils ont du sens quand on sait les décoder. Mais les premiers signes apparaissent bien souvent en amont, avant d'en arriver à ces extrêmes. Par exemple, désintérêt pour les loisirs de la part de l'adolescent ou désintérêt, désinvestissement pour l'école. Tristesse chronique, morosité, repli sur soi à l'école ou à la maison, pouvant l'amener à couper des liens avec ses amis et sa famille. Mal-être persistant, tenue vestimentaire négligée, appel à l'aide diverse comme à travers un message, un dessin, des phrases lancées lors de conversations qui n'ont l'air de rien mais pourtant qui doivent interpeller. Les signes, dernière chose, peuvent être physiques. On sait que le corps a une place importante à la période de l'adolescence. Donc les signes peuvent être un manque d'appétit ou au contraire une croissance d'appétit, on va dire, particulièrement importante. Mais ça peut être aussi des maux de ventre ou de tête à répétition, ou à des moments bien précis, le mal de ventre du lundi matin, par exemple, la fatigue chronique, etc. Donc ces signes, s'ils durent et se multiplient, sont vraiment l'expression évidente d'un mal-être dont il faudra comprendre les causes, l'origine, pour intervenir de la manière la plus adéquate.
Et alors la question ici, que faire lorsque un de ces signes apparaissent ?
Premier conseil, ne jamais prendre à la légère un indice ou un signe, par exemple dans ceux qu'on vient d'énumérer. Même si pour le parent, à première vue, il ne s'agit pas de choses graves, on peut banaliser parfois certains comportements en mettant ça sur le dos de la crise de l'adolescence, ou bien voilà, en ne percevant pas forcément l'importance de ces signaux. Mieux vaut prendre les devants et tenter de comprendre ce qui se passe, faute de quoi ce signe léger peut se transformer en signe lourd, beaucoup plus difficile à traiter ou à soigner. Deuxième chose, essayez en tant que parent de vous mettre à la place de votre enfant, de votre adolescent, pour comprendre ce qu'il peut vivre. Ce qui est dit plus haut peut vous aider à donner des pistes de compréhension. On ne raisonne pas quand on est adolescent de la même manière que quand on est enfant ou quand on est adulte. Donc pour vraiment comprendre la perception et ce que peut vivre un adolescent, le meilleur moyen c'est d'essayer de se mettre à sa place. En essayant de comprendre les problématiques particulière justement à la période de l'adolescence. Troisième chose, montrez-lui que vous êtes à son écoute et disponible. Il n'a pas forcément la parole facile, il n'arrivera pas forcément à exprimer clairement ce qui se passe pour lui, même lui parfois ne sait pas trop ce qui se passe. Par contre, le fait qu'il sache que son parent est disponible à l'écoute et qu'il est, et que vous êtes capable d'entendre, prêt à entendre ce qu'il a à vous dire, même si parfois ce n'est pas agréable et on peut craindre un petit peu ce qu'il peut se dire, c'est important pour lui. Comme ça, le jour où il aura envie de l'exprimer, de le verbaliser ou peut-être de venir vers vous, il aura plus de facilité à le faire. Autre point, repérer dans quel univers le problème se situe. Pour l'adolescent, il y a trois univers principaux. Il y a l'univers de l'école, qui représente une bonne partie du temps qu'il passe, hein, dans la partie scolaire, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe en dehors des cours, hein, par exemple, ce qui se passe avec le groupe d'amis. L'univers famille, qui est aussi important pour l'adolescent, même s'il se situe différemment que l'enfant pouvait le faire par rapport à sa propre famille. Et l'univers ami, qui est très investi et très privilégié, encore une fois, à la période de l'adolescence. Suivant l'univers où se situe le problème, les solutions ne seront pas les mêmes. Cinquième conseil que je pourrais donner, c'est quelque chose plutôt à ne pas faire, à éviter. Les moqueries, les sarcasmes sont vraiment à bannir de la relation en communication avec les adolescents. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont d'abord jamais productifs, mais en plus, à l'adolescence, il y a une hypersensibilité au jugement de valeur, à l'appréciation d'autrui, ce qui rend l'adolescent susceptible et peu ouvert à un humour de second degré. Donc là, où on peut banaliser finalement une problématique chez l'adolescent, lui va en faire un point important et va y être particulièrement sensible. D'ailleurs, si vous moquez de lui ou si vous êtes un peu sarcastique, vous risquez de le braquer. D'ailleurs, il risque de vous en vouloir pour ça ou de se replier sur lui-même, ce qui ne va pas faciliter les choses.
Donc, en gros, c'est prendre en considération ses problèmes et puis, du moins, sans les rabaisser, en tout cas.
Sans le rabaisser, sans banaliser les problèmes que lui peut vivre, même s'il a l'impression de ne pas pouvoir bien les exprimer. Ce qui va l'aider, c'est de se rendre compte que quelqu'un est en mesure de le comprendre. Même si, encore une fois, c'est parfois difficile de le comprendre, mais quelqu'un fait l'effort et cherche sincèrement à le comprendre, ça sera vraiment un soutien moral pour l'adolescent, jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exprimer clairement ce qu'il a à en dire ou de se confier, par exemple, à un adulte s'il en a besoin. Évidemment, si ces signes-là, et on en a cité quelques-uns auparavant, sont plus problématiques, dans ce cas-là, l'orientation se fera soit vers un professionnel qui comprend la problématique psychosomatique, le lien entre la psychologie et le corps à l'adolescence, soit par un spécialiste du comportement humain comme sont les psychologues sont spécialistes sur ce domaine-là. L'important, c'est que l'adolescent puisse avoir un interlocuteur avec qui il se sente à l'aise. Il ne se faut pas forcer un adolescent à aller chez un professionnel s'il ne s'y sent pas à l'aise, s'il se sent jugé. S'il y va à reculons parce que la relation de confiance ne s'établit pas avec ce professionnel, il doit être suffisamment en confiance avec ce professionnel qui l'accompagne pour pouvoir se confier, s'exprimer librement et donc sortir beaucoup plus rapidement de ces problématiques.
Nathalie, une question de Hinatea. Hinatea qui nous a envoyé une question donc sur la page Facebook Mathéo sur la première. Faut-il s'inquiéter lorsqu'un adolescent sait ce qu'il veut ?
C'est plutôt bon signe, au contraire, un adolescent sait ce qu'il veut. Peut-être que dans certains cas, ce qu'il veut est différent de ce que les parents veulent pour lui. Et c'est souvent là qu'apparaissent des conflits ou des oppositions. Le fait qu'il affirme ses choix, ses goûts, ses envies et les perspectives d'avenir qu'il voit pour sa propre vie, c'est au contraire bon signe, puisque c'est vraiment l'adolescence, c'est le terreau, on va dire, la phase préparatoire avant la vie adulte, comme pourraient être les vestiaires avant l'entrée sur un terrain de sport. Tout ça se prépare en amont. Et le fait de savoir ce qu'on veut, c'est tout simplement apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qui est important pour nous, donc nos propres valeurs, et puis se projeter dans un avenir où on va être amené, effectivement, vers la fin de l'adolescence et encore plus à l'âge adulte, à prendre des décisions, à les assumer, à orienter sa vie dans une direction qui sera la sienne. Donc, c'est plutôt un accompagnement à cette affirmation de soi qui doit se faire près de l'adolescent et à gérer les petites, on va dire, frictions qui peuvent survenir quand justement ce que l'adolescent veut n'est pas tout à fait pareil que ce que la famille veut, hein, et là c'est une autre problématique qui va plutôt être de l'ordre de la relation parent-adolescent et du conflit parent-adolescent.
Alors dès lors que cet événement va se passer, le fait où l'enfant va affirmer ce qu'il veut, va justement montrer ce qu'il veut et déjà montrer qui sait ce qu'il veut, il faut que les parents donc jouent également leur rôle, c'est-à-dire accompagner, comme tu l'as dit il y a quelques instants, mais ne pas seulement se positionner sur les règles que l'on a connues depuis tout petit. Donc il faut laisser grandir l'enfant qui devient un adolescent.
Oui, les règles de famille telles qu'elles sont établies pour, dans une certaine mesure, vont rester les mêmes. Et c'est vrai que les parents ne comprennent pas forcément que d'un jour à l'autre, l'enfant qui n'a pas du tout remis en cause toutes ces règles familiales jusqu'à maintenant se met à les questionner, à les remettre en cause, ou parfois même à refuser de les respecter, tout simplement parce que justement il se pose la question du sens de ces règles. Et les parents doivent considérer que l'enfant n'avait pas forcément besoin de toutes les explications sur les règles de la vie en famille. C'était un petit peu, c'est comme ça, pour un certain nombre de règles en tout cas. L'adolescent, ça ne suffit pas. Il a besoin de savoir pourquoi. Pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qui fait que cette règle-là, elle est juste, elle est bonne pour la famille, pour moi? Donc ça va passer par des explications. Et c'est vrai que dans certains cas, les règles peuvent aller à l'encontre d'un besoin qu'a l'adolescent de prendre du temps pour sa vie, prendre aussi du temps avec ses amis, par exemple. Et parfois, donc, ça va entrer en conflit, puisque les règles de la famille qui vont concerner que la famille ne prennent pas forcément en considération la vie extra-familiale de l'adolescent. Donc, considérer que les règles de la famille sont un repère, mais qu'effectivement, avec un adolescent, elles doivent pouvoir s'assouplir, évoluer progressivement en fonction de l'avancée dans son développement de l'adolescent.
Alors, de Fabienne à de Papéété, toujours sur la page Facebook, Mathéo, c'est la première. Pour éviter ce mal-être, est-ce qu'on peut lui proposer des activités ou des sorties qu'il affectionne ?
Alors, c'est même recommandé avant qu'il en arrive dans une situation de mal-être. Mmh. C'est que la vie d'adolescent, ce n'est pas que l'école, les matières scolaires. Il y a les amis. Et puis, il y a aussi découvrir des compétences et des talents qu'on peut avoir. Alors, dans le sport, par exemple, le sport, c'est une activité qui va permettre vraiment à l'adolescent de s'approprier de plus en plus et de se familiariser de mieux en mieux avec son propre corps. C'est parfois aussi un domaine dans lequel il va être reconnu, donc qui va booster un petit peu la confiance en lui-même. Donc c'est à favoriser. Il peut y avoir aussi des activités artistiques, comme peuvent l'être la musique ou les arts. Et dans ce cas-là, ça va faciliter l'expression. Et on sait qu'à l'adolescence, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer. Alors, pour sortir du mal-être, le paradoxe, c'est souvent que quand un adolescent va mal, il n'a plus très envie justement d'aller vers ses activités qu'habituellement il affectionne. Donc, c'est en tout cas de l'encourager à ne pas rompre, à ne pas couper, à ne pas arrêter, par exemple, en milieu d'année scolaire, une activité qu'il aimait bien faire jusqu'à maintenant. C'est de le faire continuer cette activité le plus longtemps possible, par exemple jusqu'à la fin de l'année scolaire, pour ne pas qu'il risque de s'isoler et que finalement ce qu'il trouvait comme bénéfice dans cette activité-là, il ne l'est plus. Après, il faudra beaucoup de délicatesse et de, encore une fois, sans braquer l'adolescent pour ne pas que ça devienne une obligation qui sera source d'opposition et de conflit, qui ne sera plus source de plaisir et d'épanouissement pour lui. Mais c'est vrai que la discussion peut aller dans ce sens-là avec lui en disant, je me soucie de ton bien-être, je suis prête à ce qu'on réfléchisse ensemble à une activité qui pourrait t'aider à retrouver, à être mieux. Et du coup, on en discute et peut-être qu'effectivement une activité nouvelle ou une activité ancienne que l'adolescent a interrompue peut aider. C'est-à-dire que ça va être un plus, mais ça ne va pas suffire.
Un adolescent arrive-t-il à sortir justement de ce mal-être un jour ?
Oui, et heureusement. D'ailleurs, la plupart du temps, des adolescents qui passent par des phases un petit peu de mal-être le font pas forcément. Comme je disais, la proportion d'adolescents qui vont le vivre de façon discrète, hein, pas forcément avec des comportements très dérangeants, très visibles hein, par l'entourage. Souvent, ces adolescents traversent des phases où ils ne se sentent pas bien et ils vont trouver eux-mêmes des moyens d'aller mieux. Ils vont parler avec un ami, ils vont écrire dans un journal intime, ils vont se défouler à un sport, ils vont, à travers des petites expériences avec leur groupe d'amis ou dans la famille, trouver une sécurité affective ou un soutien moral. Et dans un certain nombre de difficultés, quand elles sont mineures, ça va l'aider à retrouver petit à petit voilà, un bien-être. Donc ça, c'est dans la plupart des cas quand le mal-être il est léger. Après, c'est une question d'intensité. Mmh. Plus le mal-être est important, plus on considérera qu'il ne peut pas... ce sera de plus en plus difficile de s'en sortir seul, avec un effet notamment de cercle vicieux qui enferme l'adolescent après dans un comportement où finalement le mal-être s'entretient lui-même. Hein. Donc là, du coup, il faut vraiment une intervention extérieure pour pouvoir l'aider.
Si ce mal-être persiste, est-ce qu'il est conseillé vraiment d'aller voir un spécialiste ?
Alors, s'il persiste ou si on a vraiment mis le doigt sur le fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que la période a suffisamment duré, par exemple, entre deux semaines et un mois, et qu'on n'a pas réussi en tant que parent à sortir l'adolescent du mal-être, avant que ça se complique, je dirais même, il vaut mieux intervenir tôt pour que, justement, ne pas entrer dans cette spirale infernale où l'adolescent va s'enfermer. Avant qu'on en arrive là, intervenir un professionnel qui pourra aider à débloquer la situation, à éviter qu'on entre dans ce piège-là pour sortir de la situation délicate. Donc, plus tôt on intervient, mieux c'est.
Nathalie Collin-Fagotin, merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant donc de cet adolescent qui va mal dans une petite partie de sa vie. Mais voilà, vous nous avez donné les conseils. Ces conseils, on pourra les retrouver hein, sur le replay de cette émission, Family Psy. Et également sur le site internet de Family Psy, qu'on va donner l'adresse, familypsy.com, ou bien sur la page Facebook de
Family Psy également. Ou si vous avez des questions, des demandes d'informations, le 87 718 908.
Il y a d'autres ateliers qui sont en cours dans les...
Oui, samedi prochain, un atelier parent. Alors justement, l'atelier parent aura lieu sur le conflit entre les frères et les sœurs. On parlera de rivalité, de jalousie et comment intervenir en tant que parent dans les conflits entre frères et sœurs. Comment aider nos enfants et nos adolescents à s'autoréguler dans leurs conflits qu'ils vont vivre inévitablement avec leurs frères et leurs sœurs. Et le thé des mamans. Le même jour, 21 novembre, à 15h, c'est le thé des mamans qui sera donc sur le thème de la crise d'adolescence, justement, et sur la peur de vieillir. Donc, cette parenthèse féminine, on partira de ces thématiques-là avec un petit groupe de mamans à ce sujet.
Et je rappelle le numéro de téléphone, le 87 718 908, la page Facebook Family Psy ou bien le site internet www.familypsy.com. Merci beaucoup Nathalie Collin-Fagotin. Je rappelle que vous êtes psychologue de la famille. 10h passées de 55 minutes, c'était votre émission Family Psy.